Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous amener à la rencontre de Nicolas Bouzou pour la parution de son nouvel ouvrage « Le capitalisme idéal » paru chez Erol, édition d'organisation, 114 pages, si mes souvenirs sont bons, pour 14 euros. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Louis.
Alors Nicolas, on est très heureux de vous retrouver.
Plaisir partagé.
On a déjà vu avec vous un certain nombre de vos parutions, dont une a été donc couronnée par le prix Turgot en 2007, le petit précis d'économie appliqué à l'usage du citoyen pragmatique. Donc on connaissait déjà l'économiste, on connaissait le financier, on connaît le chroniqueur très médiatique. Et on découvre avec plaisir, à la lecture de ce nouvel ouvrage, l'honnête homme au sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire celui qui puise ses réflexions dans une large culture. Pour le trentenaire que vous êtes, ça mérite d'être souligné. Alors, par ce nouvel ouvrage, vous partez d'une conviction dans laquelle vous nous dites que le capitalisme a gagné. Mais le capitalisme qui a gagné, c'est peut-être pas le capitalisme idéal. Nous allons voir avec vous ce qu'est pour vous le capitalisme idéal. Alors je rappelle quand même très brièvement que vous êtes chargé de cours au sein du MBA des droits des affaires et de management à Paris de Dassas. Vous intervenez bien sûr à la radio, à la télévision et vous signez de nombreuses chroniques dans la presse. Vous donnez de nombreuses conférences en France et à l'étranger. Et vous avez publié en outre en 2009 le Crack financier qui était aussi un ouvrage de synthèse. Et vous dirigez pour Erol la collection « Le capitalisme en mouvement » dont cet ouvrage fait partie.
Absolument.
Bien entendu. Alors, première question, donc, le capitalisme a gagné.
Oui, mais ce n'était pas forcément évident. En réalité, moi, j'ai commencé à écrire ce bouquin pendant la crise, à la fin de l'année 2008, donc je venais juste de sortir mon livre précédent. Et la réflexion que je m'étais faite est la suivante. Je me disais, cette crise est présentée partout comme une crise du capitalisme, comme une crise du marché, comme une crise du secteur privé, par opposition aux politiques, finalement. Et donc, je me suis dit, ça va sans doute être une boîte de Pandore ouverte pour toutes les revendications anticapitalistes. Et aux surprises, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que pendant cette crise, finalement, on a eu très peu de revendications anticapitalistes et des mouvements anticapitalistes qui existaient déjà, qui préexistaient à cette crise, bien entendu, comme les altermondialistes, finalement, n'ont pas reçu une audience extrêmement forte. Et ce qui est amusant, c'est que quand on regarde les résultats des élections qui ont eu lieu pendant cette crise, ce sont plutôt des gouvernements dits conservateurs, libéraux, de droite, de centre-droite, en particulier en Europe, qui ont été élus ou reconduits. Et donc, je me suis dit, finalement, faire un livre de défense du capitalisme, c'est une erreur, c'est un peu à côté de la plaque. Et cette fois, c'est peut-être la fin de l'histoire qui avait été prophétisée il y a maintenant plus de 10 ans. On avait vu que ce n'était pas tout à fait le cas. Mais si pendant cette crise, qui a été une crise très dure, la crise la plus dure depuis les années 30, si on accepte la récession de la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, et une crise véritablement qui est présentée comme une crise du capitalisme, alors si le capitalisme n'a pas cédé pendant cette crise, il ne cédera plus. Et donc l'opposition n'est plus entre les pro-capitalistes et les anti-capitalistes, mais entre ceux qui pensent que le système capitaliste fonctionne bien, ou ceux qui, comme moi, pensent qu'à l'intérieur du système, et c'est ça qui est important, à l'intérieur du système, avec nos comportements individuels, avec nos comportements en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que consommateur, que citoyen, comme politique, on peut changer les choses pour le mieux.
Donc l'ouvrage est donc un voyage à la recherche du capitalisme idéal à travers l'histoire dans le temps et l'espace, de l'Amérique précolombienne, on y reviendra tout à l'heure, en passant par le Moyen-Âge français, pour en tirer des enseignements enrichis, et je crois que c'est le point important, de l'expérience avérée du jeune chef d'entreprise en responsabilité ici et maintenant. Et je voudrais, pour donner le ton de votre ouvrage, lire ce que vous dites en avant-propos, la fin de l'histoire. Nous changer nous-mêmes, modifier nos comportements pour faire du capitalisme le capitalisme idéal, c'est, je pense, le devoir moral de ma génération, celle des trentenaires, pour que les êtres humains vivent dans la paix, la prospérité et sur une planète accueillante. Donc en fait, ce que vous introduisez de nouveau, on va dire par rapport aux pensées académiques, universitaires, etc., c'est que vous parlez en responsable pour faire du capitalisme ce que votre génération a comme devoir moral de faire.
Oui, surtout parce que je crois qu'il existe de vraies problématiques à l'intérieur du capitalisme. Et c'est pour ça que, vous savez, je suis profondément libéral. Et en même temps, il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent mal dans notre système actuel. Les questions liées au développement durable, par exemple. Moi, je suis très soucieux des questions de développement durable qui, fondamentalement, je le pense, sont des questions économiques. Parce que finalement, la question du développement durable, la question de l'écologie, c'est une question de rareté. Rareté des matières premières, rareté de l'air pur, rareté de l'eau. Et à partir du moment où c'est une question de rareté, c'est une question qui est faite pour les économistes et c'est une question qui, en réalité, peut être résolue dans un système de marché. Je prends l'exemple de la pêche, par exemple. Il existe, bien entendu, un problème de poisson dans le monde. Et bien, ce problème de poisson, ce problème de stock déclinant, on a beaucoup parlé du thon rouge ces derniers mois, c'est un problème qui peut être réglé par une interaction fructueuse entre une politique publique bien pensée et le respect des mécanismes de marché. L'exemple que je prends pour l'environnement, en réalité, je peux le décliner dans beaucoup d'autres domaines. Donc je crois que même en étant respectueux, si vous voulez, du capitalisme, de la propriété privée des moyens de production, bien évidemment, des mécanismes du marché, bien évidemment, je crois qu'on peut changer un certain nombre de choses dans le champ de la démocratie, dans le champ de l'environnement, dans le champ de l'économie, dans le champ de l'éthique, etc. etc.
Mais puisque vous, justement, vous venez de souligner cet aspect très particulier de la tragédie des biens, voilà, des biens communs de Garrett Hardin, je pense que ceci mérite un développement parce que c'est quand même un point relativement central de votre thèse, enfin en tout cas qui n'est pas habituellement autant souligné. Vous pouvez nous en dire un mot? Donc vous avez pris l'exemple de la pêche, mais il y a aussi celui de la forêt, c'est-à-dire autrement dit, c'est celui un peu des passagers clandestins, ceux qui ne payent pas le prix du voyage.
Je crois que les défenseurs du capitalisme ne doivent pas avoir peur devant les questions d'environnement. Il existe un problème d'environnement. Alors évidemment, je ne suis pas climatologue, mais en même temps, je sais à peu près lire une courbe quand même, donc je vois bien que sur le long terme, on a un réchauffement climatique, et donc il faut se poser cette question. Si vous voulez, la Terre est entourée de l'atmosphère, et depuis la révolution industrielle du 19e siècle, qui s'est faite sur une base très particulière, elle s'est faite sur l'utilisation des ressources fossiles. Il aurait pu en être autrement, elle aurait pu se faire par utilisation de l'eau, par utilisation de l'air, par utilisation de je ne sais quoi. Non, elle s'est faite par l'utilisation des ressources fossiles. Et la caractéristique de cette révolution industrielle, c'est qu'elle était très polluante. Et en réalité, on a fait comme si il n'y avait pas d'atmosphère, ou plutôt comme si l'atmosphère n'avait pas de prix. Donc il faut donner un prix à ce genre de choses. Et ça, ça passe par les mécanismes de marché. Je prends l'exemple de l'eau. On consomme trop d'eau dans le monde. On a une diminution des réserves d'eau par habitant dans le monde, ce qui est quand même quelque chose qui n'était pas évident intellectuellement au départ. Eh bien, il faut donner un prix à l'eau. Et je suis désolé de le dire, parce que je sais que ça choque beaucoup de gens, mais à partir du moment où ce sont des problèmes de rareté, il va falloir que le prix de l'eau augmente. Alors, vous parliez de la tragédie des communs. Fondamentalement, le problème pourrait être réglé spontanément par la définition de droits de propriété. Vous preniez l'exemple de la forêt. Quel est le problème des forêts, bien souvent?
Ou de la pêche. Hein,
ou de la pêche. Ouais. C'est qu'elles n'appartiennent à personne. C'est qu'il n'y a pas de droits de propriété. Donc, dans un contexte dans lequel on n'a pas de droits de propriété, on est toujours incité à utiliser plus que si soi-même on était propriétaire du domaine dans lequel on pêche, dans lequel on chasse, dans lequel on coupe du bois ou je ne sais quoi. Alors évidemment, on ne peut pas mettre des droits de propriété partout. Notamment, on ne peut pas en mettre dans la mer, on ne peut pas en mettre dans les poissons. Mais on peut définir, par exemple, des quotas de pêche. Et donc, on peut recréer un système de marché sans être trop interventionniste, parce que je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je le répète, je suis très soucieux de la propriété privée. Bien évidemment, je suis très soucieux des mécanismes de marché. Mais le marché, c'est un outil que l'on peut utiliser aussi pour le meilleur. Et je crois qu'on peut concilier véritablement l'efficacité économique et la défense de la démocratie, la défense de l'environnement, la lutte contre la pauvreté, le respect de certaines normes morales, éthiques, la religion aussi, j'en parle, l'art. Enfin, je pense que tout ceci peut parfaitement fonctionner dans un système capitaliste. Et il ne faut pas tout voir en termes, pour le coup, en termes marxistes. C'est-à-dire qu'il faut essayer quand même de sortir de cette idée selon laquelle la société est faite uniquement d'antagonisme et de rapports de force.
Oui. Alors, vous revenez justement, et c'est un petit peu votre approche générale dans vos ouvrages, sur des points de synthèse et de concision. Et vous rappelez que le système capitaliste, c'est un système de coopération sociale fondé sur la propriété privée. C'est le point essentiel qui distingue le capitalisme du socialisme au sens, on va dire, initial du terme. Et bien sûr, viennent après les marchés et le prix. Mais ce capitalisme-là, donc de base, sur lequel vous commencez à porter quelques critiques et sur lequel vous dites que le capitalisme est un système imparfait, c'est le système des hommes,
par définition.
Mais qui, il en est d'autant plus perfectible. Alors, ce capitalisme-là, quel est, à ce jour, au-delà de ce que vous venez de développer, le point qui vous paraît le plus sensible, donc c'est l'environnement, c'est un développement, on va dire, maîtrisé, c'est-à-dire que ce n'est pas une contradiction entre l'écologie et le développement, c'est un chemin plus peut-être complexe, mais plus
oui,
subtil.
Oui, je crois fondamentalement que les débats portent beaucoup sur le capitalisme et donc sur la croissance aujourd'hui, parce que la croissance économique, en réalité, sur le long terme, n'est possible que dans un système capitaliste. On a des pays non capitalistes qui ont pu connaître des phénomènes de croissance, mais ce sont des phénomènes de croissance extrêmement fluctuants. Mais en tout cas, toute l'histoire économique, et je fais quand même un tour d'horizon de l'évolution de l'économie depuis le Moyen-Âge dans mon bouquin, c'est à partir du moment où on est sorti de la féodalité, c'est-à-dire à partir du moment où on a défini des droits de propriété, à partir du moment où on est entré dans un système capitaliste mêlé de démocratie parlementaire, je fais allusion au fait, bien entendu, que les premiers phénomènes de croissance économique, on les a observés aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, c'est à partir de là qu'on a eu finalement à la fois une croissance de la production, une croissance économique, une croissance de la population et une croissance de la production par habitant. Donc ça, ça ne fait absolument aucun doute et donc il faut conserver ce système qui est bon. Mais à l'intérieur du système capitaliste, le champ des possibles est beaucoup plus grand, beaucoup plus large qu'on ne veut parfois nous le faire croire. Et la thèse centrale de mon livre, qui est finalement extrêmement simple, c'est peut-être de dire tout simplement... On peut avoir des comportements éthiques, on peut avoir des comportements moraux, on peut avoir une vision à long terme et être efficace. Et donc s'inscrire dans ce système capitaliste et donc dans ce système de croissance. On a tout un débat, notamment en France, sur la question de la décroissance. Mais à mon avis, la question n'est bien évidemment pas là. La décroissance, chacun peut comprendre assez facilement que la décroissance, on l'a connue en 2009, partout dans le monde, avec une récession extrêmement forte, c'est de la décroissance. Et on voit bien que ça génère plus de pauvreté, du chômage, des frustrations. Donc, en réalité, personne ne veut ce système. La question n'est pas celle de la croissance en tant que telle, mais de quel type de croissance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit pour quels besoins. Et on a une chance extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution technologique nous permet peut-être d'entrer dans cette nouvelle révolution industrielle, dans cette seconde grande révolution industrielle, qui à mon avis peut être une révolution industrielle pour le meilleur, et notamment qui peut être une révolution industrielle respectueuse de l'environnement. Donc la question de l'environnement, puisque vous m'interrogez là-dessus, en réalité pour moi, non seulement croissance économique et développement durable vont ensemble, mais la condition du développement durable, c'est une croissance économique forte, compliquée, high-tech, à forte valeur ajoutée, avec beaucoup d'emplois. Bref, c'est exactement l'inverse de la décroissance.
D'accord. Donc, le capitalisme a gagné. On voit ses points de dérive, mais on peut donc l'améliorer. C'est ce que vous dites donc dans votre chapitre 2, améliorer le capitalisme par le capitalisme. Je vous lis parce que je crois que là aussi, ça va donner le ton. Le capitalisme fonctionne mieux avec des individus libres. Que n'ai-je entendu comme sottise sur la dictature éclairée ? Cette antienne récurrente avec un bon dictateur, pas de syndicat, pas de grève, l'avantage de la vision à long terme, là où la démocratie est soumise aux cycles électoraux. Le succès des pays du sud-est asiatique ne démontre-t-il pas ? Moi, je ne mets pas un seul euro dans un pays non démocratique, par éthique, mais aussi par intérêt. Bien compris, totalitarisme et développement ne font pas bon ménage. Et c'est là où vous distinguez ce qui est deux situations parmi les pires, c'est-à-dire l'Islande des marchés libres et la Corée du Nord de l'autre modèle. Donc, alors, quelques mots là-dessus.
Oui, bien entendu, ce sont des exemples un peu caricaturaux.
Oui, mais
et la Corée du Nord est le seul pays qui ne soit pas du tout capitaliste dans le monde, encore que, même en Corée du Nord, on voit aujourd'hui émerger des marchés, notamment dans la campagne.
Donc, les marchés du lapin, comme...
Oui, voilà. Alors, le capitalisme, fondamentalement, est quelque chose de relativement naturel. Il a besoin d'institutions qui sont des institutions construites, mais c'est quelque chose de relativement naturel. Mais sur cette question de la démocratie et du capitalisme, alors, il y a eu beaucoup de débats et beaucoup d'études qui ont été réalisées par les économistes sur ce sujet. Il y a notamment un économiste américain qui s'appelle Danny Roderick qui fait autorité sur ce sujet. Certes, des pays totalitaires peuvent éventuellement connaître une croissance économique à certains moments un peu plus forte que des pays démocratiques. Et on comprend bien pourquoi, et on le voit bien en France, qui est un pays démocratique, on voit bien que parfois les choses sont un peu compliquées, on voit oui, bien oui. que l'obligation du compromis nous ralentit sur certains sujets. Donc tout ceci est vrai, et les Chinois n'ont pas ce type de problème, ou Singapour n'avait pas ce type de problème il y a encore quelques années. Mais si vous regardez les performances d'un pays sur le long terme, vous vous rendez compte que la croissance économique dans une démocratie est plus stable. Dans les pays totalitaires, vous avez certes des périodes de forte croissance, mais vous avez aussi des à-coups. Vous avez des chutes de production extrêmement fortes, et donc des chutes de revenus extrêmement fortes. Vous n'avez pas de filets sociaux, et vous avez un prix Nobel très connu qui s'appelle Amartya Sen, un prix Nobel d'économie indien, qui a montré que dans les pays démocratiques, on ne connaissait pas de famine. Il existe bien sûr des famines dans le monde, mais elles sont réservées, pour ainsi dire, aux pays totalitaires. Les pays démocratiques n'acceptent pas les famines. Donc la démocratie est parfois un peu difficile à vivre, hein. Je le répète, en France, on voit bien que parfois les choses peuvent être compliqué, mais sur le long terme, finalement, on s'y retrouve et démocratie et capitalisme, d'une certaine façon, se complètent et se renforcent.
Ce que vous dites d'ailleurs, c'est que la démocratie coûte cher, mais elle rapporte gros. Quoi.
Bien sûr, absolument, et elle coûte cher et c'est une difficulté. C'est une difficulté parce que pour certains pays très pauvres, il est très compliqué de passer à la démocratie. C'est d'ailleurs l'une des justifications de l'aide au développement.
Alors vous êtes, juste une parenthèse, très réservé sur le cas chinois qui interroge beaucoup les économistes. On parle de l'économie socialiste de marché. Et vous êtes assez radical sur ce point, vous faites un développement dans votre ouvrage en disant « je ne mettrai pas un euro ou un copec, on ne sait plus maintenant si c'est des euros ou des copecs, sur le cas chinois parce que fondamentalement, marché libre et économie libre et régime démocratique ne peuvent pas faire autrement que d'aller ensemble. »
Écoutez,
en synthèse, c'est ça.
Absolument, non, tout à fait. L'économie socialiste de marché, pour moi, c'est ce qu'on appelle un anticoncept. C'est-à-dire que ça n'a même pas de sens. Alors, bien entendu, je vois bien, j'observe le fait que la croissance économique de la Chine est extrêmement forte. Mais quand on me dit c'est bien la preuve qu'il y a un nouveau système et que totalitarisme et capitalisme ou marché peuvent coexister, en réalité, on n'en sait rien, puisque l'expérience est trop courte. L'expérience de développement de la Chine, finalement, est relativement récente. Il ne faut pas oublier que la Chine s'était développée jusqu'au XVe siècle, avait touché son point d'apogée au début du XVIe siècle et a connu une très longue période de déclin. Et on est aujourd'hui, pour ainsi dire, dans un phénomène de rattrapage par rapport à un déclin qui avait été extrêmement long. Donc je crois qu'il est encore trop tôt pour pouvoir juger de la solidité du modèle chinois. Bien entendu, je peux me tromper, mais là encore, vous savez, moi je suis économiste, donc j'aime bien les chiffres. Donc je regarde beaucoup les moyennes et je regarde beaucoup les études d'ensemble. Il s'avère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les pays totalitaires, tôt ou tard, connaissent un problème, connaissent une crise sociale. Et d'ailleurs, le gouvernement chinois lui-même le sent bien, puisqu'il avait beaucoup répété à qui voulait l'entendre pendant la crise qu'en deçà d'un taux de croissance économique de 6%, les équilibres sociaux du pays risquaient d'être remis en cause. Oui, mais enfin 6%, c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. Alors, surtout pendant longtemps.
Surtout pendant longtemps, bien évidemment. Et on n'a pas d'expérience dans l'histoire économique d'un pays qui, année après année, engrangerait des taux de croissance de 8, 9, 10%. Ouais. Que la Chine soit inscrite sur le chemin du développement, oui, j'en suis quasiment certain. Mais je pense que le chemin du développement, il est très chaotique et il sera même semé d'incidents, d'accidents, et la Chine n'y échappera pas.
Alors par contre, c'est quand même une inquiétude, puisqu'en fait, aujourd'hui, on sait que les Chinois sont devenus l'exportateur numéro 1. Mais ils sont aussi devenus l'importateur numéro un. Donc, ce qui veut dire que c'est un noyau central. Vous avez collaboré de façon très précise à l'ouvrage du Cercle Turgot « La Chine-Amérique ». Et effectivement, maintenant, le problème, ce n'est pas simplement que la place prise dans le commerce mondial en titre d'exportation, c'est aussi dans la place carrément dans le monde que ce système, qui reste une énigme, a pris. Vous voyez la sortie comment? Je sais bien que vous êtes un économiste, n'est pas un astrologue. Hein, mais
on essaye.
Un grand point d'inquiétude. Est-ce que justement, en fait, ce n'est pas tout simplement ce qu'est la logique du capitalisme, c'est-à-dire la coopération, et que, en définitive...
Sans doute, mais si je reprends mon fil conducteur, pour la Chine, en réalité, il y a deux voies de sortie. Soit l'économie rejoint le système politique, c'est-à-dire qu'on a une fermeture de l'économie, et ça s'est déjà produit. Hein. L'histoire longue de l'économie chinoise, c'est finalement une histoire d'ouverture-fermeture. Hein. Donc on est toujours un peu dans ce cycle long. Ça, c'est la mauvaise solution. La bonne solution, ce serait bien entendu que le système politique rejoigne l'économie. Et donc que, peu à peu, la Chine s'ouvre. Mais c'est possible. La Chine, enfin, je vais peut-être choquer en disant ça, mais la Chine est déjà plus démocratique qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Et ce qui fait peur aux dirigeants nord-coréens, c'est bien aujourd'hui le fait que la Corée du Nord pourrait suivre l'exemple chinois. Et j'ai beaucoup d'exemples de pays émergents qui sont des pays dans lesquels les gouvernements ont accepté l'économie de marché et qui sont des pays qui subissent des pressions démocratiques assez fortes. Un pays que je connais bien, par exemple, qui est le Maroc. Le Maroc est devenu un pays capitaliste à la fin du règne d'Hassan II, tout ceci ayant été fortement renforcé avec le règne de Mohamed VI. C'est bien entendu encore un pays totalitaire, mais enfin, les pressions démocratiques sont beaucoup plus fortes que durant la première moitié du règne d'Hassan II.
Tout à fait. Bon, donc une lente évolution vers une sorte d'universalité démocratique. Enfin, la réponse des Chinois principale, c'est de dire attendez, patientez un peu, laissez-nous arriver à un stade de développement
qui nous permettra
ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce coup de la démocratie.
Alors, là, ils ont raison. Et l'idée que j'essaie de défendre dans mon livre, c'est que fondamentalement, les évolutions économiques sont beaucoup plus lentes qu'on ne l'imagine parfois. Je prends l'exemple de la première révolution industrielle. Les premières grandes grappes d'innovation, on les observe au Moyen-Âge. Et la révolution industrielle moderne, hein, celle du 19e siècle, a en réalité commencé dès la fin du 18e siècle. Et les grappes d'innovation, comme disent les économistes, les clusters d'innovation se sont étendus jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc on est au centre aujourd'hui d'un phénomène de destruction créatrice de ce type-là. Mais les choses et les transitions sont beaucoup plus longues qu'on ne le pense en règle générale, surtout à une époque où on parle beaucoup de rupture technologique. En réalité, il n'y a pas de rupture, il n'y a que des évolutions.
Des continuités.
Sur un temps long, qui sont à la fois pleines d'opportunités et en même temps très douloureuses.
Voilà. Alors, on arrive vers cette cible du capitalisme idéal. Vous dites dans votre troisième chapitre, ce capitalisme idéal est à portée de main. Il sera plus féminin, plus sobre. Un capitalisme de la raison, avec plus de solidarité, de justice et d'innovation. Ce qui suppose avant tout de nous changer nous-mêmes. Tout est dit. Donc, vous, c'est ça votre chemin du capitalisme idéal.
Moi, je ne suis pas de ceux qui pense que la crise était une chance pour la France ou je ne sais quoi, mais la crise, elle a été là. Donc, autant qu'elle serve à quelque chose, finalement, et autant essayer de réfléchir à un certain nombre de dysfonctionnements. Et je prends un exemple très précis dans mon livre, qui est celui du rôle des femmes dans l'entreprise. Les femmes dans l'entreprise sont une catégorie qui est discriminée. C'est très bien documenté. Elles sont un peu discriminées à l'embauche. Elles sont surtout discriminées en matière salariale. Hein, dans un pays comme la France, le niveau de formation des femmes est légèrement supérieur à celui des hommes et les salaires des femmes sont inférieurs en moyenne de 15% à ceux des hommes. Donc, il y a une discrimination. Et pourtant, toutes les études qui ont été réalisées par les économistes montrent que les entreprises qui ont le plus grand nombre de femmes dans leur management sont aussi celles qui sont finalement les plus ouvertes à l'innovation et donc qui, in fine, ont les meilleures performances. Alors, taux de marge si elles ne sont pas cotées, performance boursière si elles sont cotées. Bref, en tout cas, ça leur réussit économiquement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que des femmes dans les entreprises. Ce qui compte, c'est le mélange, bien entendu. C'est ça, hein, ce qui est fructueux. Et pourtant, je m'étonne de voir que les choses n'avancent pas. Alors, est-ce que c'est une question de génération ? Est-ce que c'est une question franco-française ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est intéressant pour un libéral comme moi de voir quand même qu'il y a des échecs du marché. Là, typiquement, on est en face d'un échec du marché. C'est bon économiquement de recruter des femmes.
Et
ça ne se fait pas.
D'accord.
Un vrai sujet. Alors, on peut toujours être pour les quotas, etc. Mais on n'a pas envie d'en arriver là.
Les femmes elles-mêmes ne sont pas
pour les quotas. On n'a pas envie d'en arriver là. Mais c'est pour ça que je lance cet appel. Alors, faisons-le nous-mêmes.
Alors, c'est peut-être justement un problème de génération.
Ah, on n'aime pas. Non, mais on n'aime pas dire ce genre de choses. C'est peut-être le cas.
D'accord. Et vous dites, on va terminer sur ce dernier point, parce qu'il faut laisser un peu d'appétit à nos auditeurs. Donc, et le bonheur dans tout ça. Car enfin, finalement, le capitalisme, c'est un système au service des hommes. Enfin, en tout cas, on aimerait qu'il le soit, et encore plus qu'il ne le fût. Alors, c'est quoi le bonheur aujourd'hui pour quelqu'un qui vit dans le capitalisme idéal ?
C'est un débat, d'ailleurs, sur lequel on est assez en pointe en France, puisque le président de la République, Nicolas Sarkozy, a constitué même la commission Stiglitz qui traite de ces questions. Finalement, je suis un assez grand défenseur de cet indicateur terriblement frustre qui est le PIB. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de se dire oui, mais alors il n'y a pas que. Alors le PIB, hein, pour nos auditeurs qui ne seraient pas économistes, c'est simplement le niveau de production sur un territoire donné. C'est la mesure la plus large possible de la production de biens et de services sur un territoire donné. Et à chaque fois qu'on essaie de corréler le PIB avec les indicateurs de développement humain, par exemple, hein, qui prennent en compte l'espérance de vie, la mortalité infantile, le niveau d'éducation, on se rend compte qu'on a une corrélation très forte. Hein. Les pays dans lesquels on est le mieux éduqué, les pays dans lesquels on vit le plus longtemps, ce sont finalement les pays les plus riches. Et les pays dans lesquels les gens sont le plus heureux, quand on leur demande, ce sont aussi les pays les plus riches. Donc, il est quand même pas idiot d'être riche et le développement économique, quand même fondamentalement, a beaucoup de vertus. Alors, ce qui est vrai, en revanche, et ce que montrent ces mêmes études, c'est le fait que les gens se comparent. C'est-à-dire que le PIB, c'est important, le niveau de richesse, c'est important, mais ce qui est très important, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi la progression de ce sentiment de richesse. Et on revient sur la question de la croissance. C'est pour ça que toutes ces thématiques sur la fin du PIB, la fin de la croissance, me paraissent en réalité absurde, parce que la croissance, c'est une question économique, mais c'est aussi finalement une question philosophique. La question de la croissance, c'est est-ce que je veux demain vivre mieux ? Est-ce que je veux que mes enfants et mes petits-enfants vivent dans de meilleures conditions matérielles que moi ? Sachant que s'ils vivent dans de meilleures conditions matérielles, ils seront mieux éduqués et sans doute ils vivront plus longtemps. Ça ne me paraît pas complètement idiot.
Voilà, c'était la grande leçon d'avenir de Nicolas Bouzou, un grand moment de fraîcheur et de bon sens qui vient à point nommé éclairer l'avenir d'une planète en proie au doute et épuisée par la crise de 2008 et 2009. Des pistes donc vers le capitalisme idéal qui vient de paraître donc chez Erol, édition d'organisation, Nicolas Bouzou dans la série Le capitalisme en mouvement. Nicolas, merci encore à vous et au plaisir de vous retrouver.